clé secrète de l'univers. Dominique Demichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Et vous allez écouter l'émission Les clés secrètes de l'univers, cet immense feuilleton cosmique qui nous emmène dans une odyssée qui démarre au début de l'histoire du monde et nous amène progressivement à notre vie d'aujourd'hui. Notre générique, c'est une musique, celle composée par Richard Strauss et que le grand cinéaste Stanley Kubrick a utilisée pour son film 1968, sorti en 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour ce long trajet, ce long feuilleton, nous avons un guide qui nous prend par la main, qui nous explique qu'il s'agit de Michel Galliana Mingo, qui a publié un ouvrage que je vous recommande, « Les clés secrètes de l'univers », publié chez EDP Science, et qui a donné son titre à l'émission. Bonjour Michel.
Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Alors nous avons commencé la semaine dernière la grande aventure de la vie sur Terre et de l'apparition des premières protocellules, on va dire. Et puis, vous nous avez parlé de cette expérience tout à fait singulière qui consistait à tenter de recréer les conditions d'apparition de la vie et avec, au bout du compte, quand même quelques surprises.
Effectivement, il s'agissait pour Steinle Miller, cet étudiant qui a eu une idée de génie en 1953, il s'agissait simplement de reproduire l'atmosphère telle qu'elle devait être à l'époque, il y a 4 milliards d'années, et de la parcourir d'éclairs, d'électricité, et de regarder ce qui se passait. Et il fait ça dans un ballon de verre, et il constate qu'en bas du ballon s'accumule un liquide très visqueux, une espèce de goudron, et en analysant ce qu'il y a dans ce goudron, il découvre tout simplement des molécules organiques. Je vous dis ce qu'est une molécule organique, on qualifie de molécules organiques celles qui sont fabriquées par la vie. Jusqu'à Steinle Miller, on distinguait deux sortes de molécules, celles qui étaient dites minérales, les cailloux, les gaz de l'atmosphère, la roche d'une manière générale, l'eau, et les molécules dites organiques qui, elles, étaient fabriquées par les êtres vivants. Un être vivant fabrique des sucres. Une plante fabrique de la cellulose, par exemple, pour sa tige, qui est une espèce de sucre. Les plantes et les animaux fabriquent des protéines, sont en grande partie faits de protéines, d'ailleurs. On connaît aussi l'ADN, l'ARN, dont on parle beaucoup maintenant à cause des vaccins. Toutes ces molécules sont organiques, c'est-à-dire fabriquées par le vivant. Et voilà que Stanley Kubrick, dans un ballon où il n'a mis que 4 gaz qui étaient supposés constituer l'atmosphère de l'époque, uniquement avec ces gaz, voit apparaître naturellement, car encore une fois, ces conditions étaient des conditions naturelles à l'époque, voit apparaître naturellement des molécules organiques. Alors, ça a été un coup de tonnerre dans la communauté scientifique, et c'était d'autant plus étonnant que cela provenait d'un étudiant doctorant qui devait avoir 23 ans. Ça a été un choc. On s'est aperçu que cette distinction molécule organique, molécule minérale n'avait pas de sens. Il y avait en fait un continuum entre les deux. Et dans les molécules organiques qu'il a trouvées, il y avait un petit nombre d'acides aminés. Les acides aminés, ce sont des molécules pas très complexes, n'est-ce pas ? Mais ce sont les briques de la vie, parce que ce sont elles qui constituent les protéines. Les protéines sont des chaînes d'acides aminés. Et donc, trouver un acide aminé dans le goudron qui était au fond de ce vase, c'est extraordinaire, parce que ce sont les briques de la vie. Et aujourd'hui, on sait que non seulement les molécules organiques se forment, les plus simples, hein, se forment naturellement, mais plus que cela, ce qu'on appelle les briques de la vie, des molécules déjà un peu plus sophistiquées, se forment spontanément. Alors une deuxième preuve de cela est apparue dans les décennies qui ont suivi. On en a trouvé dans le cosmos. Vous savez que dans le cosmos, lorsqu'on observe un nuage cosmique, on observe une planète, on observe un astéroïde, ou une étoile, on sait déterminer sa composition chimique. On sait de quoi elle est faite. Comment ? Eh bien, en analysant la lumière. On décompose la lumière selon les couleurs de l'arc-en-ciel et on examine tout ce bandeau de couleurs qui va du rouge au violet. Et on voit dans ce petit, ce spectre, on appelle ça le spectre des couleurs, on voit des petits traits noirs. Et ces petits traits sont des signatures qui nous permettent de dire là, il y a de l'ammoniac, là, il y a des molécules de sucre, là, il y a de l'oxygène, etc. Et donc, grâce à cette méthode, on a pu analyser la composition chimique d'objets très lointains, hein, des nuages cosmiques qui sont situés à des milliers d'années-lumière, et on a trouvé aussi dans ces objets des molécules de toutes sortes. Donc, on peut dire qu'il y a une chimie cosmique qui existe, moins développée que sur la Terre, ce qu'on a identifié à peu près 200 molécules. Mais, et là c'est encore surprenant, on y a trouvé des acides aminés. Un exemple de cela, c'est une météorite qui est tombée, je crois que c'était dans les années 60, qui s'appelle la météorite de Murchison. Et dans cette météorite, on a examiné ce qu'il y avait à l'intérieur et on a trouvé 70 sortes d'acides aminés. C'est étonnant quand vous pensez que la vie n'en utilise que 20. Nos protéines sont fabriquées de 20 sortes d'acides aminés qui s'enchaînent comme un collier de perles les unes aux autres. Mais le vivant n'en utilise que 20. Il en existe beaucoup plus. Et dans cette comète, dans cette météorite, pardon, on en a trouvé 70. Donc, maintenant, on sait par l'expérience de Miller, on sait par ces mesures-là que, non pas la vie, mais au moins les briques constitutives de la vie existent un peu partout. Alors, j'irai deux commentaires à partir de cela. Le premier, c'est que je ne dis pas que la vie existe partout, je dis que les briques de la vie existent partout. Imaginez que vous apportiez un tas de briques dans votre jardin, ce n'est pas ça qui va faire une maison. Donc voilà où nous en sommes. Et maintenant, reste la question comment ces briques ont pu s'arranger et comment la vie a pu, le cas échéant, sortir de là. La deuxième réflexion que je ferai, qui est importante, très importante je crois, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'origine de la vie sans remonter au cosmos. Autrement dit, c'est un des intérêts de mes études, de mon livre, c'est que je dépeins l'ensemble depuis le Big Bang, l'astrophysique, le cosmos, jusqu'à la vie, l'homme, etc. Parce que tout ça s'enchaîne. On ne peut pas comprendre l'homme si on ne comprend pas l'animal. On ne peut pas comprendre l'animal si on ne comprend pas la cellule. On ne peut pas comprendre la vie si on ne comprend pas le cosmos. Tout cela est lié et est lié d'une façon continue. C'est cela que on a découvert en 1953 et dans les décennies suivantes.
C'est d'ailleurs, je trouve, intéressant pour comprendre aussi un petit peu l'histoire et cette notion de briques élémentaires qu'on appelle en effet ces cellules, hein, qui est composée au fond d'une petite membrane avec une espèce de poste de commandement qui s'appelle le noyau, et puis quelque chose pour respirer, quelque chose pour se nourrir, quelque chose pour se défendre, et quelque chose pour se reproduire. Et je trouve que c'est intéressant, par exemple, de rapprocher ça du fait que je crois que c'est simplement en 1838 qu'un botaniste, il me semble allemand, observe que les plantes, au fond, sont composées de cellules. On a l'impression que ça pourrait être très très ancien. Non. ces petites briques élémentaires, hein, ces cellules, et à l'intérieur, en effet, ces briques encore plus élémentaires qui ne sont pas elles vivantes, mais qui sont des briques élémentaires que vous avez appelées les acides aminés, et bien tout ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si ancien que ça. Dans la prise de conscience de cette unité au fond de la vie.
Oui, quand vous parlez d'unité, il faut préciser que la cellule des végétaux est très très proche de la cellule des animaux.
Oui, tout à fait.
Les plantes sont très différentes de nous à cause de leur histoire dans l'évolution, mais elles sont faites des mêmes cellules que nous, grosso modo. Oui. C'est pour ça que la pharmacologie des plantes est si efficace chez les hommes ou chez les animaux.
Oui. Une grande partie, d'ailleurs, des médicaments sont tirés de plantes. Hein. Tout le monde connaît l'aspirine, par exemple. Hein. L'aspirine est dérivée de l'écorce d'un arbre que tout le monde connaît, qui s'appelle le saule. Bon, on arrive bientôt au terme de notre émission là pour cette semaine. Il nous reste peut-être 2-3 minutes. Comme ça, toujours pour... Vous allez nous emmener où, Michel, maintenant ?
Eh bien, je vais vous parler brièvement des quelques scénarios qui aujourd'hui sont travaillés par les chercheurs, tout en précisant que le domaine reste quand même d'une opacité remarquable. Et puis, une fois que nous aurons parlé de ça, je ne pourrai pas vous en dire plus, puisque les recherches piétinent beaucoup, mais nous passerons à la bactérie, qui est un monde fascinant, puisque... Je vous dirais qu'une seule chose, c'est que numériquement, les bactéries dominent la biosphère. Donc, il faut rester modeste. Nous autres êtres humains représentons une toute petite partie de la biosphère et elle est largement dominée par les bactéries.
Oui, tout à fait. Ça représente une très grande partie de ce qu'on appelle la biomasse, hein, c'est ça. Hein,
voilà. Bon. Par majoritaire de la biomasse.
Oui, oui, oui. Bon, j'avais envie, puisque c'est la fin quand même, de terminer sur ce personnage de Darwin, parce que c'est vrai que depuis, des milliers de chercheurs de toutes disciplines ont précisé, raffiné, infiniment complexifié ces thèses, mais sans jamais les prendre en défaut.
Exactement, et ce qui me frappe chez Darwin, c'est son intuition. Alors, je ne devrais pas employer ce mot d'ailleurs d'intuition, parce que tout chez Darwin est toujours étayé sur l'expérience, tout. Il ne dit jamais rien qui ne soit étayé par l'expérience. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas parlé de la naissance de la vie. C'est une autre raison qui fait qu'il n'a pas parlé de l'origine de la vie, alors qu'il se posait la question, l'origine à partir du minéral. Il n'en a pas parlé parce qu'il n'avait aucun élément expérimental pouvant prouver cela. Et Darwin est comme cela. Il ne parle que lorsqu'il sait ou lorsqu'il a des preuves. Et ce qui me frappe, c'est son immense intuition, son immense intelligence du réel. C'est tout à fait l'équivalent d'Einstein en physique. Ouais. Einstein avait une intuition incroyable.
Et puis ça fait partie, et on va s'en tenir là, de ces grandes révolutions darwiniennes, comme on dit, mais avant, il y avait eu les grandes révolutions coperniciennes, par exemple, etc. Michel, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, bonjour à tous nos auditeurs, et puisque l'année commence, je souhaite une bonne année à tout le monde. Et encore un grand merci, Michel. Au revoir.
À bientôt.